Radio Star, la web radio
de Saint-Amand.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Stella, la web radio de Saint-Amand. Je suis Camille et aujourd'hui, pour présenter cette troisième émission de l'année, je suis accompagnée de Daphné. Bonjour Daphné.
Bonjour à tous, bonjour Camille. Pour cette troisième émission, nous vous avons concocté un superbe programme, à commencer par l'actu Saint-Amand.
Je confirme, dans l'actu du collège, nous reviendrons notamment sur l'opération Acide de pâte du Carême qui a permis cette année encore de soutenir deux associations locales.
Nous parlerons aussi du problème du gaspillage alimentaire au self avec les éco-délégués.
À vous la parole ensuite. Nous avons voulu en savoir plus sur la manière dont vous utilisez déjà l'intelligence artificielle qui a désormais envahi nos vies.
Et pour vous aider à réviser les maths alors que les épreuves du brevet approchent, nous avons interviewé Arieka, un professeur qui fait réviser les maths en chanson sur YouTube.
Dans notre toute nouvelle rubrique, un pays, une tradition. Nous vous ferons découvrir aujourd'hui le fonctionnement de l'école en Roumanie et la fête nationale des Pays-Bas.
Nous parlerons ensuite culture et plus précisément la bande dessinée en vous présentant la célèbre série des Enfants de la Résistance ainsi que l'un de ses auteurs de BD françaises les plus renommés actuellement, Riyad Satouf.
Et pour finir en beauté, comme toujours, nous retrouverons nos célèbres pâtissières pour une toute nouvelle recette de cuisine. Pour ceux qui n'ont pas peur des calories.
Vous êtes prêts? C'est parti!
L'actu Saint-Amand.
Durant les 4 vendredis du Carême, au mois d'avril, les élèves de Saint-Amand ont pu participer, comme chaque année, à l'opération Pâte-Pomme.
À cette occasion, les élèves volontaires choisissent de manger des pâtes et une pomme pour le repas, qui permet à des associations locales de récolter l'argent économisé sur le prix d'un repas normal.
Cette année, deux associations ont pu bénéficier des fonds récoltés grâce à l'opération. Or et Ri, l'association venant en aide aux enfants de l'hôpital dont nous avons déjà parlé l'année dernière.
Et la Table du Soir, une association bayonnaise apportant une aide alimentaire à tous ceux qui en ont besoin. Pour en savoir plus sur cette association, Pablo et Jeanne sont allés interviewer Madame Kova, notre assistante d'éducation, qui est également bénévole à la Table du Soir. Écoutez-les.
Pourriez-vous nous dire ce qu'est la Table du Soir et quelles sont ses actions?
Alors, la Table du Soir est une association qui aide les plus démunis. Nous offrons des repas tous les soirs pour tous ceux qui viennent. La devise de l'association, c'est « Si tu as faim, tu viens ».
Pourquoi avez-vous choisi d'être bénévole dans cette association?
Alors, j'ai choisi la Table du Soir parce que c'est une association tout à fait locale qui n'existe qu'à Bayonne dans son fonctionnement. Et que j'avais du temps à donner et que je trouvais qu'aider les plus démunis, c'était une bonne chose à faire.
Comment l'opération Assiette de pâtes va-t-elle aider l'association?
Cette opération va nous aider à améliorer tout ce que nous offrons aux bénéficiaires de la Table du Soir, puisque la banque alimentaire nous fournit les denrées pour faire les repas, mais de plus en plus, nous avons besoin d'acheter des choses en plus pour améliorer l'ordinaire. Voilà, donc l'argent qui va être collecté grâce à tous les élèves de Saint-Amand va servir à aider à améliorer les repas qui seront servis.
Puisque nous parlons de la restauration scolaire, évoquons maintenant le problème du gaspillage alimentaire. Camille, tu es éco-déléguée et tu as assisté récemment avec les autres éco-délégués à une intervention sur ce sujet. Alors, est-ce que le gaspillage est un problème à Saint-Amand?
Oui, le gaspillage alimentaire est encore trop présent. Mais depuis quelques mois, une association récupère nos restes alimentaires pour les distribuer aux chiens.
Loan, peux-tu nous donner une définition claire du gaspillage alimentaire?
Le gaspillage alimentaire est défini comme toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée.
Et peux-tu nous rappeler quelques recommandations pour éviter tout ce gaspillage au self?
Oui, pour ceux qui n'ont pas bien compris encore, voici quelques règles à respecter. 1. Vous devez faire un maximum d'efforts pour finir tout ce qu'il y a dans votre assiette. 2. S'il vous reste des aliments dans l'assiette à la fin du repas, vous devez les jeter dans le bac blanc pour les déchets alimentaires. Ça vaut aussi pour les pots de bananes et des autres fruits. 3. Attention, ne jetez pas les serviettes en papier, les yaourts et autres emballages dans ce bac.
Et oui, pour ceux qui ne le savent toujours pas, ce n'est pas comestible.
Maintenant, plus d'excuses. Vous savez comment faire, j'espère. Le tri, ce n'est pas bien compliqué.
Si vous voulez apporter votre aide sur ce problème, n'hésitez pas à faire part de vos idées aux éco-délégués.
Passons maintenant à un sujet qui a envahi notre vie quotidienne ces derniers mois, l'intelligence artificielle. Que vous l'utilisez ou pas, vous n'avez pas pu passer à côté.
De plus en plus d'élèves utilisent en effet l'intelligence artificielle dans leur vie privée, mais aussi dans le cadre du travail scolaire. Gabin, Marion et Elliot ont tenté d'en savoir plus sur les pratiques de chacun. Écoutez leur micro-trottoir.
Bonjour, est-ce que tu utilises une application d'intelligence artificielle ?
Oui.
Oui, bien sûr.
Oui, un peu.
Laquelle ?
ChatGPT.
ChatGPT, l'IA et Siri.
ChatbotGPT et ChatGPT.
Et pour quel usage ?
Pour faire des exposés et générer des images pour mes exposés.
Siri, quand j'ai la flemme d'aller par exemple regarder la météo, je dis Siri, mets-moi la météo.
Souvent pour mes exposés, je génère des photos où je demande de faire les traductions.
Et tu vérifies toujours ce que les intelligences artificielles te proposent ?
Après, je demande à mon père de vérifier. Et la plupart du temps, c'est vrai.
Oui, je le fais assez régulièrement.
Oui, bien sûr, des fois.
Eh bien, on voit que l'intelligence artificielle est partout désormais.
Oui, mais même si elle est très pratique, il faut savoir faire attention et faire preuve d'esprit critique.
Que veux-tu dire ?
L'IA commet-elle aussi des erreurs ? Elle est parfois orientée et n'utilise pas que des sources d'informations fiables. En un mot, il faut toujours vérifier et croiser avec d'autres sources d'informations plus sûres.
Pas facile, mais indispensable en effet. Les maths non plus, vous ne trouverez pas ça facile.
Pour apprendre et retenir les notions, rien ne vaut parfois qu'une bonne chanson. C'est l'idée d'Arieka, un professeur de mathématiques qui propose des chansons sur YouTube pour mieux comprendre et apprendre les maths. Vous ne me croyez pas ? Écoutez.
Petite chanson sur les tables de multiplication. Les 5 premières sont à connaître sans hésitation. Table de 1, rien à apprendre. Table de 2, calcule le double. Table de 3, rajoute ton nombre de départ à ton double. Tu calcules le double du double. Pour la table de 4, pour 6 fois 4, 6 et 6, 12. 12 et 12, ça fait 24. Pour la table de 5, tu comptes de 5 en 5, 0, 5.
Bonjour Louison, bonjour Maë. Pouvez-vous nous présenter Arieka ?
Bonjour à tous, vous venez d'entendre un petit extrait d'une chanson créée par Arieka que vous pouvez écouter sur internet et les réseaux. Le principe de sa chaîne YouTube, Rapématique, est simple, révisé tout en rappant.
Eh oui, ce professeur de mathématiques à Blanquefort, en Gironde, est désormais une star des réseaux. Il a créé de nombreux titres pour réviser toutes les matières en musique du collège au lycée.
Et nous avons la chance de pouvoir l'interroger aujourd'hui sur son projet et son succès. Alors bonjour Arieka, pour commencer, comment as-tu eu l'idée de faire ça ?
Alors l'idée, c'est un copain qui, en plaisantant, m'a soumis l'idée. Il m'a dit, ouais, vu que tu fais du rap et des maths, pourquoi tu ferais pas les deux en même temps ? Et en fait, au début, je l'ai pris à la rigolade, mais je me suis dit que s'il y avait un réel sens pédagogique derrière, ça pourrait être pas mal d'utiliser cette version-là. Et j'ai réfléchi à trouver une bonne formule. Et quand je me suis dit, si je me mettais devant mon bureau, que derrière il y avait vraiment ce qui illustrait le clip, je pourrais mettre des vrais exemples dans mes chansons. Je me suis dit que là, ouais, ça pourrait être pertinent pour les faire réviser, pas pour faire comprendre les élèves, mais pour les faire réviser. Et du coup, j'ai fait 2-3 tests. Puis les gens, ils ont bien aimé. Donc je me suis dit, je me lance dedans, quoi.
Et en quoi cela peut aider les élèves de réviser en musique ?
Alors, ça peut les aider dans le sens où, ça dédramatise la matière un petit peu. Et de deux, ce sont des chansons avec des refrains. Et des fois, les refrains, c'est répétitif. Et quand c'est répétitif, ça aide à faire rentrer certaines notions en tête. Après, c'est peut-être que ça va surtout attirer plus les élèves vers la révision plutôt que les aider.
Est-ce que certains de tes élèves utilisent tes chansons ?
Ah oui, beaucoup de mes élèves utilisent des chansons. Déjà, moi, je leur fais utiliser en cours, hein, puisque je les utilise à l'intérieur de mes cours. Et puis après, pour réviser, je les envoie sur Pronote. Et puis souvent, ils en ont même entendu parler avant même que je leur fasse utiliser.
Comment tu fais pour trouver de l'inspiration pour le rythme ?
Si tu me parles d'inspiration pour le texte, il vient parce que ça fait aussi longtemps que je suis prof de maths, donc je sais quelles sont les notions que je veux aborder, et ça fait aussi longtemps que je fais de la musique, donc le flow me vient assez naturellement, surtout que je réfléchis pas beaucoup pour des rapématiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre en valeur les paroles et pas forcément la musicalité de la chanson, du texte.
Combien as-tu de chaînes YouTube ?
Alors, j'en ai une pour les rapématiques. J'en ai une pour ma musique à moi, personnelle, et j'en ai créé une il n'y a pas si longtemps que ça pour la chaîne des rappés pratiques où je fais rapper les élèves cette fois-ci.
Que feras-tu quand tu auras fini les programmes de maths ?
Je me mettrai à ma propre musique. Alors après, avant d'avoir fini vraiment tout le programme, je sais pas, parce qu'il y a quand même un programme au niveau lycée que j'ai commencé, que je suis loin d'avoir fini. Il y a quand même aussi un programme au niveau école primaire. Je sais pas si c'est pertinent d'utiliser la chanson pour l'école primaire encore. Je vais voir. J'avais essayé de trouver une méthode un peu hybride, moitié explication parlée, moitié explication chantée. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire une petite pause, une pause musique pour ma propre musique personnelle.
Comment t'es venue l'idée de sortir un livre ?
Alors l'idée du livre, c'est pas moi qui l'ai eue. En fait, c'est les éditions Larousse qui m'ont contacté et qui m'ont demandé de faire un livre. Donc là, il a fallu que je trouve l'idée. Et disons que pour que ce soit pertinent, moi, je me suis dit que comme les chansons aidaient à réviser, il fallait que le livre apporte aussi autre chose. Et donc le livre, en fait, il apporte les explications. Ce sont des fiches de révision, mais bien détaillées, en fait, qui donnent du sens aux notions, en fait. On comprend grâce au livre, en s'imprégnant des chansons au fur et à mesure, en fait. Voilà, ça, c'était le petit but du livre, quoi.
Et sur sa nouvelle chaîne Rap et Pratique, Arika permet aux élèves de concevoir leurs propres chansons de révision.
Il a notamment créé avec des élèves cette chanson pour lutter contre le harcèlement. Elle s'appelle Brisons le silence, voici un petit extrait.
Encore un verre sur ma bouffonne, toujours la même histoire. Vu que t'es bonne en histoire, tu vas faire nos devoirs. Ah. Elle fait vos devoirs, elle va faire les miens aussi. Et pour pas être en retard, que ce soit fini pour jeudi. Ça devrait pas te gêner avec ton QI d'HPI. Quoi t'es occupé mais rien à faire c'est pas ma vie. Puis ça m'étonnerait vu que t'as pas de copine. Arrête de pleurer fais pas ta victime.
Les mois passent. Et ça fait bien longtemps qu'on la voit plus en classe. Elle me manque pas tellement.
Excellent, c'est vraiment très intéressant. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez découvrir les chansons de Arika sur internet.
Et maintenant partons à la découverte d'autres pays dans notre toute nouvelle rubrique.
Un pays, une tradition.
De nombreux élèves à Saint-Amand sont originaires de régions ou pays différents, ou encore ils ont vécu à l'étranger durant leur enfance. Dans cette nouvelle rubrique, ils nous font découvrir la richesse des traditions dans ces autres pays ou régions du monde.
Et on démarre avec la fête nationale des Pays-Bas, que nous présente Pablo.
Hello.
Mais ça veut dire quoi ça ?
Ça veut dire bonjour en néerlandais. Petit rappel à tous pour bien commencer. Les Pays-Bas sont un pays européen qui fait partie de l'Union européenne. On y parle le néerlandais.
Alors Pablo, la fête nationale des Pays-Bas, comment ça s'appelle ?
On l'appelle Koningsdag, qui veut dire le jour du roi, en néerlandais. C'est une fête très importante aux Pays-Bas qui permet de fêter l'anniversaire du roi Willem-Alexander. La tradition du Koningsdag remonte au 19e siècle, en l'honneur du 5e anniversaire de la princesse Wilhelmina, le 31 août 1885. Cette fête s'appelait alors Prinsesdag, qui veut dire le jour de la princesse. À mesure que les différents membres de la famille se sont succédés, le jour et le nom de la fête ont changé. De nos jours, il s'appelle le Koningsdag, qui permet de fêter l'anniversaire du roi.
Et comment est célébrée cette grande fête ?
Le jour de Koningsdag, tous les habitants des Pays-Bas sortent de chez eux et vont dans les centres de leur ville ou village, het centrum, là où il y a le plus d'ambiance. Ils sont tous habillés d'orange, oranje, et brandissent des drapeaux néerlandais avec fierté. Des festivals sont organisés dans tout le pays, comme le Oranje Pop ou le Kingsland Festival. Traditionnellement, le roi et sa famille se rendent chaque année dans une commune différente des Pays-Bas, ce qui permet à la ville et aux communes environnantes de se présenter aux membres de la famille royale de manière festive et distinctive. Cette année, la ville visitée sera Doetinchem.
Et qu'est-ce qu'on mange ?
Traditionnellement, on mange des oranje soucheus, qui sont des choux à la crème, et des tompoucheux, qui sont des millefeuilles. Après, en général, on mange un peu tout tant que c'est orange. Des boules de glace orange, par exemple.
Et quelle est la date de la fête nationale ?
Comme je l'ai dit, le Koningsdag est fêté le jour de l'anniversaire du roi. Or, Willem-Alexander est né le 27 avril. Donc, depuis 2013, on le fête le 27 avril, de 27e van de Preon. Par contre, si le 27 avril tombe un dimanche, alors il est fêté la veille, le samedi 26. Donc cette année, le Koningsdag a été fêté le samedi 26 avril 2025, de 27e van de Preon.
Merci Pablo. Comment dit-on en néerlandais ?
Bedankt. Ik hoop dat jullie hebben ons artikel leuk gevonden. Tot ziens.
Et direction maintenant la Roumanie, un pays que Paul connaît bien. Alors Paul, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter l'école roumaine.
Oh, formidable ! Est-ce que l'école roumaine est-elle très différente de l'école en France ?
Pas vraiment, mais il y a quelques détails qui changent. L'enseignement est obligatoire de l'âge de 6 à 16 ans, comme en France. Et l'enseignement primaire dure 4 ans, de 6 à 10 ans, dans une scuola primaria.
Et ensuite, c'est le collège comme chez nous ?
Oui, l'enseignement secondaire débute par le gymnasio, c'est l'enseignement général des jeunes de 10 à 14 ans. Et à la fin de cette période, les élèves passent un examen national, l'équivalent du brevet. mais les résultats obtenus lors de cet examen, ainsi que les notes qu'ils ont eues pendant leurs années de collège, conditionnent la suite de leur scolarité. Soit ils vont en lycée, soit en école des arts et des métiers.
Et comment le lycée s'organise-t-il ?
Il comprend trois filières possibles, générale, spécialisée ou technologique. Il y a deux cycles, un cycle inférieur de 15 à 16 ans et un cycle supérieur de 16 à 18 ans. À la fin du cycle inférieur, le certificat du niveau d'études, certificat des capacités, est délivré. Et à l'issue du cycle supérieur, l'équivalent du bac est décerné. Le lycée dure 4 ans, un an de plus qu'en France.
Et l'école des arts et des métiers, c'est quoi alors ?
Les élèves y suivent un enseignement professionnel de 15 à 18 ans. Ils peuvent y obtenir un diplôme professionnel. C'est une sorte de bac professionnel permettant d'entrer dans la vie active.
Et après le lycée, que font les élèves ?
Ils peuvent suivre un enseignement supérieur avec le baccalauréat ou même sans. Pour les écoles paramédicales, il est tout de même obligatoire. L'accès à ces filières se fait généralement sur examen d'entrée et le diplôme final donne accès au marché du travail.
Finalement, ça ressemble beaucoup au système français, non ?
C'est assez proche, effectivement.
Merci Paul. Passons maintenant à la rubrique culture.
L'actu culture.
Dans l'actu culture, nous allons parler bande dessinée cette fois. Daphné, tu voulais nous faire découvrir l'une de tes séries BD préférées, Les Enfants de la Résistance ?
Oui, c'est une série géniale en 9 tomes, écrite par Vincent Dugommier et Benoît Hers. Le premier tome a été publié en mai 2015 aux éditions Le Lombard. Et depuis, son succès ne se dément pas.
Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à les lire ?
En général, on peut commencer à les lire vers 9 ans, je dirais.
Et de quoi parle cette histoire ?
La série commence à l'été 1940 à Pontat-l'Écluse, un village dans le centre de la France en zone occupée. Elle se finit en mai 1943, pour l'instant, car ce n'est pas encore terminé. La BD raconte le destin de trois adolescents, François, Husbert et Lisa, qui s'engagent dans la résistance face à l'occupant allemand.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce livre ?
Ce que j'aime le plus, c'est que grâce à cette BD, on peut apprendre plus de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Et où peut-on trouver ce livre ?
On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, bibliothèques et bien sûr au CDI du collège, quand il n'est pas déjà emprunté.
Eh bien, je vais vite aller la réserver alors.
Sinon, tu pourrais aussi commencer à lire les cahiers d'Esther de Riyad Satouf, tu connais ?
Bien sûr, mais je vais laisser la parole à Paul et à Thaïs, qui sont de grands fans de Riyad Satouf et qui vont nous présenter cet auteur de BD désormais célèbre dans le monde entier.
Pas de problème Camille. Alors pour commencer, il faut savoir que Riyad Satouf est né à Paris le 5 juin 1978. Il a grandi en France et en Syrie car sa mère Clémentine, elle est française, et son père, Abdul Razak, est syrien. Il a deux frères, Yahya et Fadi.
Et comment s'est-il fait connaître ?
C'est à l'école des Gobelins, une célèbre école de dessin, qu'Olivier Vatine l'a repéré en 2000 et l'a présenté à Guy Delcourt, un éditeur de bande dessinée très réputé. Il a sorti sa première saga, Petit Verglas, entre 2000 et 2002.
Et ensuite ?
En 2002, il a acheté un atelier à Paris avec d'autres auteurs de BD, Christophe Blain, Mathieu Sapin et Joanne Sfar. Sous la direction de Joanne Sfar, il sort alors Le Manuel du Puceau et Ma Circoncision.
Puis en 2004, il dessine chaque semaine dans Charlie Hebdo, une planche sur la vie secrète des jeunes. En 2007, il sort la BD Retour au collège, qui connaît pas mal de succès. En librairie, il crée le personnage de Pascal Brutal, un personnage très macho, pour le magazine Fluid Glacial.
Mais Riyad Satouf n'est pas aussi réalisateur au cinéma ?
Oui, en effet. En 2009, il réalise son premier film, Les Beaux Gosses, qui fonctionne très bien au box-office. Il est même nommé 3 fois au César et obtient le César du meilleur premier film.
Côté BD, il connaît aussi de plus en plus de succès. Pascal Brutal reçoit le prix du meilleur album.
Et ce n'est que le début. En 2014, il quitte son atelier pour pouvoir sortir le premier tome de son autobiographie intitulé L'Arabe du Futur. Élu meilleur album au Festival d'Angoulême en 2015, c'est aujourd'hui son plus gros succès. Il est dans le top 5 des livres français les plus traduits à l'étranger.
À la même époque, il rejoint le magazine L'Obs dans lequel il publie chaque semaine une planche de BD intitulée Les Cahiers d'Esther. Il raconte les anecdotes de la vraie vie d'une petite fille de 10 ans. C'est aussi un très gros succès.
Et depuis ?
Eh bien, il a sorti 50 tomes de L'Arabe du Futur, tous de grands succès, ainsi que 9 tomes des Cahiers d'Esther, qui a maintenant 18 ans. Sans oublier le jeune acteur qui raconte les débuts de l'acteur Vincent Lacoste.
En 2023, il a remporté le Grand Prix d'Angoulême, la reconnaissance suprême dans le monde de la BD.
Et maintenant, quels sont ses derniers livres ?
En 2024, il a sorti « Moi, Fadi, le frère volé », dans lequel il raconte le point de vue de son frère sur son histoire familiale. En ce moment, il prépare également un livre sur sa maman.
Et quels sont vos livres préférés de Riyad Sattouf ?
Personnellement, c'est « L'Arabe du futur » et « Les cahiers d'Esther ». Ce sont mes favoris. Et je ne pense pas être le seul.
Moi aussi, je les adore.
Encore une fois, n'attendez pas pour découvrir ces livres, à commencer par les cahiers d'Esther qui sont tous au CDI.
Bon, vous n'aurez pas un petit creux, moi je meurs de faim. Voyons ce que vont nous proposer aujourd'hui nos chères pâtissières de la Radio Star.
La cuisine de Radio Star.
Enfin la fin du carême! On va pouvoir manger plein de gras et de sucre! On va faire péter les calories!
Et pour Pâques, qu'est-ce qu'on mange ?
En entrée, des asperges.
En plat, de l'agneau.
Et au dessert ?
Aucune idée. Allons demander à Claudette.
Claudette ! Claudette !
Quoi encore ?
On n'a pas de dessert.
Vous voulez du gras ?
Oui.
Et du sucre ?
Oui.
J'ai ce qu'il vous faut. C'est une recette extrêmement calorique. Catastrophique pour la ligne.
Parfait. Qu'est-ce que c'est ?
Pour la faire, il vous faut 250 g de petit beurre.
200 g de lait concentré sucré,
100 g de beurre
et 200 g de chocolat noir. Écrasez les biscuits pour les réduire en miettes. Vous pouvez aussi les faire passer rapidement au mixeur.
Faites chauffer le beurre et le lait concentré sucré en remuant.
Ajoutez hors du feu les biscuits émiettés et mélangez.
Placez du film étirable dans un plat carré pas trop grand,
20 par 20 cm,
et versez-y le mélange. Tassez bien.
Faites fondre le chocolat et versez-le dans le plat.
Laissez refroidir et placez au frigo une nuit.
Démoulez et découpez en carrés.
Attention, si les carrés sont trop gros, vous trouverez ça écœurant et vous ne voudrez plus jamais en manger.
Ou alors, vous pouvez faire comme moi et manger tout le plat d'un seul coup.
Non, mon dessert.
Eh bien, comment s'appelle votre recette mystère ?
Je vous le dirai pas.
Vaut mieux aller faire un peu de sport après, j'ai l'impression. En attendant de goûter ça, nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour une toute dernière émission de Radio Star très bientôt.
Merci pour votre fidélité et à bientôt.
C'était l'émission Radio Star. À bientôt.